Louis Cyr, bonjour.
Bonjour, Paul.
Comment allez-vous, mon cher Louis?
Ben, de mon côté, ça va très bien, vous-même.
Ça va bien. On toffe la run, comme a dit le docteur Johan Liu. Oui, vous allez me dire, c'est peut-être un anglicisme, mais c'est pas grave. On va lui pardonner. On toffe la run. Alors,
voilà.
Louis, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Oui. Parce que les assurances font partie de nos vies. Assurance vie, assurance invalidité, assurance voiture, assurance bateau, assurance ci, assurance ça. La première question que je vous pose, Louis, on dit les grandes compagnies d'assurance, dont les sièges sociaux peuvent être au Royaume-Uni, en Suisse et tout ça, vont-elles être capables de faire face à des séries de réclamations assez invraisemblables?
Ben, il faut séparer vraiment les deux types d'assurance. Là, vous l'avez bien dit d'entrée de jeu, là. Il y a l'assurance de dommages, donc des biens, des autos, des maisons, des entreprises, des poursuites, etc. Et l'assurance des personnes, où est-ce qu'on couvre les maladies, les hospitalisations et les décès. Donc, bien sûr, ces deux industries qui sont touchées très différemment dans une pandémie et l'industrie qui a, bien sûr, le plus de dangers de décaissement finalement rapide, donc possibilité de crise de liquidité, c'est beaucoup plus les assureurs vie qui pourraient voir indemniser multitude de décès ou multitude d'hospitalisations ou d'assurance salaire.
Est-ce que ça s'est vu dans le passé? C'est-à-dire que la demande était tellement forte, je sais pas moi, après un séisme comme celui qu'on a eu au Japon ou encore le tsunami de l'Asie du Sud-Est, est-ce qu'on a eu des situations, on a vu des grandes compagnies qui allaient manquer de liquidité tellement il y avait des réclamations d'assurance-vie?
Il y a eu des situations où est-ce que les assureurs vie sont tombés en crise de liquidité. Dans le cas de pandémie, on n'a pas une grande historique de pandémie. Et les grandes pandémies qui ont causé des décès, parce qu'il faut faire attention entre la contagion et la mortalité, les assureurs paient beaucoup plus de dollars quand on est en mortalité au niveau de l'assurance vie. Donc, à ce moment-là, la dernière date vraiment de la crise espagnole, et la crise espagnole, les gens n'étaient pas vraiment assurés au même niveau qu'aujourd'hui, et les montants d'assurance n'avaient aucune mesure avec ce qu'on est aujourd'hui.
Oui, parce que pour pas cher, quand on est en bonne santé, qu'on est jeune, on peut acheter une police d'assurance vie pour relativement pas cher par mois, mais qui garantissent, je ne sais pas, moi, 100 000, 200 000 $ en cas de décès du conjoint, de la conjointe, d'un enfant. Et tout à coup, là, on fait face à une situation inattendue où, malheureusement, il risque d'y avoir pas mal de décès. Donc, ça veut dire une charge qui arrive directement pour la compagnie d'assurance.
Oui. Par contre, faut aussi faire attention, là. Il y a des décès qui sont causés par toutes sortes de choses et les assureurs, c'est le décès qui paie. Bien sûr, aujourd'hui, on va peut-être voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès par contagion, mais par contre, on a peut-être éliminé tous les décès autoroutiers du Québec, et sachez qu'on en avait plusieurs dizaines par mois, là. Donc, il faut faire attention, là. C'est le total à la fin de l'année qui changera quelque chose. L'autre chose, les régulateurs mondiaux ont serré la vis un peu aux assureurs-vie depuis quand même plusieurs années. On a des ententes internationales qui font en sorte que les assureurs doivent réserver beaucoup plus de capitaux pour des décaissements rapides. Alors oui, les assureurs-vie sont capables de faire face à beaucoup de décaissements rapides. De là à estimer aujourd'hui si on va faire face à une crise de liquidité mondiale au niveau des assureurs-vie est un peu tôt. De l'autre côté, par contre, l'assurance de dommages, elle, est une industrie qui est très peu affectée en ce moment du fait que les biens ne sont pas vraiment endommagés.
Ouais. Il y a des gens qui disent « je n'ai plus à utiliser mon véhicule, il m'appartient encore et je suis dû pour le renouvellement de ma police d'assurance. Il faut quand même l'assurer, même si on ne roule pas avec. »
Oui. C'est vrai pour les voitures, c'est vrai pour les résidences, les bâtiments. Faut pas oublier que l'assurance du bien est toujours ou presque une exigence du créancier. Alors, bien sûr, la personne qui me dira « ma voiture est totalement payée, ma maison aussi, mon immeuble, peu importe, j'ai aucun créancier, je prends mon risque », une décision tout à fait personnelle. Si par contre on a une location de voiture ou un prêt sur notre voiture ou sur notre maison, on ne peut pas se permettre ça et il faut faire attention parce que là on pourrait se mettre en défaut envers nos créanciers.
Est-ce que... Donc, allez-y, Louis.
Donc, l'assurance, en ce moment, est encore une obligation, mais vous avez tout à fait raison sur un point. Il y a beaucoup moins de sinistralité depuis un mois. Écoutez, le mois de mars et le mois d'avril risquent d'être les deux mois les moins chers de l'industrie de l'assurance de dommages depuis des dizaines d'années. Ça, on le sait déjà, on l'a déjà constaté. Tout le monde est à côté du robinet, donc le dégât d'eau va être tout petit. S'il y a un feu de patates frites, on est six dans la maison avec une chaudière d'eau, on va être capable de l'éteindre. Il n'y a plus de voitures sur les routes ou presque, il y aura moins d'accidents. Donc, tout ça est vrai et on est en train de le constater.
On n'avait pas pensé à ça, effectivement, que notre monde a beaucoup changé, notamment le transport. Et il y a des mécanismes qui permettent, les gens, par exemple, qui possèdent des bateaux, des motos, des motorisés, des autocaravanes, qui est le terme exact, peuvent, lorsqu'ils remisent leur véhicule, obtenir, évidemment, une ristourne de la Société d'assurance automobile du Québec, à condition, évidemment, de ne pas rouler avec, là. Vous le remisez pendant un certain temps, vous avez un retour par rapport à ce que vous avez payé comme frais, notamment, d'immatriculation.
Oui, en ce moment, c'est sûr que les assureurs, si on est en train de demander, exemple, des remisages pour des voitures, ben, il faut savoir que la ristourne économique que l'on reçoit au niveau de notre prime n'est qu'à la fin. Donc, lorsqu'on remet le véhicule sur les routes. À partir de là, c'est pas une économie instantanée.
Non.
C'est une économie future. Par contre, l'industrie de l'assurance de dommages en ce moment est une des seules industries dans tout le monde financier qui n'a pas sorti avec des mesures qui rendraient pour les citoyens et les entreprises les choses plus uniformes et plus simples. Par contre, il faut aussi savoir que l'industrie de l'assurance de dommages, le Canada n'est pas souverain dans son industrie. Quand on dit aux banques canadiennes, vous allez faire ça pour les citoyens, ben, il faut savoir que les banques canadiennes sont gérés par le Canada et sont protégés par nos lois canadiennes et les étrangers qui veulent venir faire du bancaire au Canada doivent prendre les sous, les déposer au Canada et ne plus les retirer du Canada. Ils deviennent donc canadiens. Les assurances, ce n'est pas ça. 60% de l'assurance des entreprises nous est offerte par des étrangers. Et le 40% de nos assureurs domestiques canadiens ne peuvent pas opérer sans être réassurés. Et aucun réassureur n'est canadien, ce sont tous des Britanniques, des Suisses, des Allemands, des New-Yorkais. Alors, il faut faire attention quand on veut forcer une industrie totalement libre et mondiale. Exemple, on ne peut pas demander à un Britannique de participer à un effort canadien que la Grande-Bretagne ne lui a même pas demandé chez lui.
Exact.
Donc, en ce moment, l'industrie de l'assurance est en concertation. Ça fait depuis le début de la crise, là. Mais c'est très difficile d'arriver à des consensus. En ce moment, les assureurs disent « appelez-nous cas par cas ». Est-ce que ça va durer longtemps? On ne pense pas. On pense que les efforts des différents paliers. Il faut savoir que le Canada gère, avec son bureau du surintendant des institutions financières, toute la norme des assureurs au Canada. Ensuite de ça, il y a des provinces qui gèrent certains assureurs qui ne sont pas à charte canadienne, mais à charte provinciale. Mais le Canada, lorsqu'il exige de ses assureurs des réserves, hein, c'est un peu comme les banques. Si on additionnait chaque montant d'assurance offert, il n'y a pas un dollar en banque pour chacun de ces montants-là. Donc, ce qu'on fait avec les assureurs, c'est qu'on leur dit « OK, vous pouvez offrir 1 milliard de couverture en autant que vous avez, exemple, 100 millions de disponibles.
Ouais. »
Donc, dans ces cas-là, on peut jouer ici au niveau fédéral avec des normes qui peuvent s'assouplir, exemple. De dire à des assureurs « OK, venez chercher des liquidités, on baisse les exigences pour vous permettre d'être plus souple avec vos assurés. » Jamais le gouvernement fera ça sans qu'il y ait une grande concertation des joueurs et il y a au-delà de 150 compagnies d'assurance, c'est très difficile.
Alors Louis, ça c'est clair pour le portrait, ça fonctionne pas comme les banques. Les banques, il y avait des règles très strictes et très sévères lors de la grande crise économique de 2008-2009, ce qui nous a sauvés ici au Canada. On va s'arrêter et on va prendre quelques questions par texto via Thérèse. Il est 10h48.